Bonjour Frédéric.
Bonjour Pierre.
Bonjour Patricia et bonjour, bonjour à tous. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Tout le monde ou presque connaît les paroles de la chanson de Salvador. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le
boulot. Boulot.
Parole intéressante, car au fond, elle questionne le sens de l'existence. À quoi cela rime-t-il de turbiner autant ? À gagner de l'argent, certes, à avoir une fonction, une place dans la société, mais êtes-vous réellement heureux au travail ? C'est la question qui sous-tend le dossier du dernier numéro du magazine Kaizen. Les clés du bonheur au travail, un thème qu'on retrouve d'ailleurs également en une de La Croix, le bien-être au travail. Et dans les deux cas, on évoque précisément cette recherche, cette quête de sens, une tendance qui conduit les entreprises à repenser leur manière de motiver leurs salariés. Cela passe notamment par l'aménagement des espaces. On a longtemps vanté les mérites des open space. Or, le modèle n'a pas vraiment fait ses preuves. Une étude montre qu'il a fait chuter le nombre des interactions. Les gens se parlent moins et certains passent leur temps avec des écouteurs pour ne pas être dérangés. Ça et là, on revient au bureau cloisonné. Mais le bonheur au travail passe aussi par de nouvelles formes de management. Moins de hiérarchie verticale et puis surtout moins de pression. Ce n'est pas en tapant sur les doigts des employés qu'on les rend innovants. Analyse un ancien dirigeant de BIC dans La Croix. Lui est partisan de ce qu'on appelle une bienveillance exigence. Concrètement, il s'agit de fixer des objectifs réalisables, être optimiste, complimenter ses équipes et tenter de repérer les personnes en souffrance dans certaines sociétés. On propose d'ailleurs désormais à des salariés de faire office de bienveilleurs, choisis pour leur altruisme. Ils proposent leur écoute, leur aide à leurs collègues qui connaissent des difficultés. Bienveilleurs, c'est un nouveau mot.
Oui, dans le magazine des Échos, on trouve aussi de nouveaux mots.
Et là encore, il est question de boulot, des mots pour désigner les pathologies qui touchent les entrepreneurs de la technologie. Près d'un sur deux serait atteint de troubles mentaux, lit-on, bien plus que la moyenne de la population. Dépression, bipolarité, hyperactivité, l'addiction au travail qui conduit parfois au burn-out, mais aussi à la zapite, au zombiquisme, au binarisme ou encore à l'augmentarisme. Alors, à quoi se réfèrent tous ces mots, allez-vous me dire ? Eh bien, l'augmentarisme, c'est la psychose liée à l'impression de ne pas être assez intelligent, assez jeune, assez connecté, d'être moins fort que les machines. Le binarisme, c'est le fruit d'une utilisation excessive d'ordinateurs, des gens dont le raisonnement se limite à des réponses binaires. Continuer, annuler, ouvrir, fermer, oui, non. Un rationalisme excessif, il s'exprime comme les machines qu'ils utilisent. Le zombiquisme, c'est un syndrome qui se manifeste par l'incapacité de communiquer directement avec des personnes dans une pièce. On ne sait plus s'adresser à elles que par message électronique. Quant à la zapite, elle correspond aux crises d'ennui provoquées par l'absence de sollicitation des individus devenus totalement accros au clic. Dès lors, il est intéressant de lire le reportage publié dans 01net. Un journaliste de la revue a accepté de passer une semaine sans smartphone et sans internet, plus de réseaux sociaux. Une semaine, c'est long. Il raconte ses moments de panique, obligé de demander son chemin dans la rue. Bah oui, il avait plus de plans sur son téléphone. Plus possible le soir de regarder Netflix. Résultat, il s'est couché plus tôt que d'habitude. Il a recommencé à lire et même à faire de la cuisine. La santé, c'est aussi ça, réussir à déconnecter.
Frédéric, et comment se connecter avec les débats sur l'Europe ?
Eh bien, c'est la question que pose le Figaro ce matin. Se désolant que la campagne soit aussi évanescente. Les protagonistes ne sont pas en cause, lit-on dans l'édito. Voilà des semaines que les candidats parcourent la France, des semaines que l'on passe au crible leurs existences, leurs amitiés, leurs écrits. Mais l'honnêteté oblige à dire que tout le monde s'en moque, or on ne vote pas dans l'isoloir comme on like négligemment sur un portable. Et le quotidien s'emploie dès lors à faire le job. À une semaine du scrutin, revue de détail des programmes des différents candidats, emploi, immigration, climat, en passant par les propositions atypiques de certaines petites listes. La création d'un FBI européen, une fête nationale le 27 juillet. Le journal raconte également les difficultés qu'en rencontrent les ministres. Ils doivent soutenir leur candidate, mais du fait de ce qu'on nomme la période de réserve, ne peuvent pas faire la promotion des actions du gouvernement, dit bien sûr utiliser les moyens de l'État. Adieu le confort habituel, pas de convoi, pas de motard, ces voitures de location. L'autre jour, on a eu une 5008, raconte un ministre. Ça bombarde bien, mais la Fiat 500 qu'on a louée le lendemain, c'était quand même un peu serré, d'autant qu'on était quatre. Dur métier. Dur métier. Dans Libération, c'est le projet du chef de l'État qu'on analyse. Il entend faire exploser le bipartisme au Parlement européen, sociaux-démocrates d'un côté, droite modérée de l'autre, les deux forces cogèrent le Parlement depuis l'origine. Mais il se pourrait aussi qu'il y ait un autre tremblement de terre. C'est ce qu'expère Steve Bannon, l'ex-conseiller spécial de Donald Trump, qui veut fédérer les populistes européens et soutient la liste du Rassemblement National. Il s'exprime dans Le Parisien. C'est moi, dit-il, qui leur ai soufflé l'idée que Macron organisait là un référendum sur lui-même. Et il juge du reste parfaitement plausible une victoire du Rassemblement National à la prochaine élection présidentielle.
Et du côté de la presse régionale, on nous parle circulation.
Aveyron, les 80 km/h ont vécu, affirme Centre Presse. La quasi-totalité des routes aveyronnaises pourrait repasser à une limitation à 90, c'est du moins le souhait du président du conseil départemental. Mais dans Le Parisien, une avocate prévient, en cas d'accident, dit-elle, la responsabilité pénale des élus pourraient être engagés. Justice, dans la dépêche du midi, on évoque la condamnation d'une femme aux assises, 10 années de prison. Elle était jugée en appel pour avoir tué et emmuré son compagnon à Toulouse il y a 5 ans. Son surnom, l'emmureuse, ça fait froid dans le dos. Enfin, tous les journaux évoquent le concours de l'Eurovision. La finale se déroule ce soir en Israël. Photo de Bilal Hassani, le candidat français à la une du Dauphiné, de Vaucluse Matin, des dernières nouvelles d'Alsace. Avec cette question, la France a-t-elle des raisons d'y croire? Pourquoi pas? Le Figaro nous explique comment Israël organise l'événement. Le pays espère des retombées positives en termes d'image. Dans l'Obs, on lit que les ambassades ont été mises à contribution pour inciter les Français vivant à l'étranger à voter pour le chanteur tricolore. Chanteur pour lequel Le Parisien s'inquiète. Il aurait des problèmes de voix. C'est ballot. Du coup, on lui a conseillé de ne plus parler du tout jusqu'à ce soir. Dur métier, là encore.